personnes qui sont seules, très seules et persécutées. Alors, la prière est quelque chose d'extrêmement important et Jésus en est le témoin lui-même. Il a attiré tous les disciples régulièrement sur la colline des Monts Oliviers, du Mont des Oliviers. Il a attiré tous ses disciples. Il les prenait pour prier. Et les disciples ont même dit, nous ne savons pas prier. Apprends-nous à prier. Vous vous rappelez bien la prière du Notre Père. Donc, c'est l'apprentissage d'une relation avec le Père des cieux. Et c'est Jésus qui nous apprend à prier. Alors, dans Jean, au chapitre 14, au chapitre 16, Jésus dit que vous n'avez pas encore prié comme il faut. Ben oui, parce qu'en général, on rabâche toujours la même chose, on fait un peu comme les autres, comme on a appris. Mais à un moment donné, Jésus dit, il faut prier votre Père des cieux en mon nom. Donc on s'adresse à Dieu, à notre Père, avec des mots personnels, pas des ritournelles, au nom de Jésus. On ne se présente pas à Dieu tout seul, on se présente avec le Jésus de Nazareth, ce Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui m'a sauvé, et qui par son sang me purifie, veut me purifier tous les jours. C'est extrêmement important parce que être en présence de Dieu sans le Christ, sans le grand prêtre, Épître aux Hébreux, chapitre 5 à 8, eh bien, pratiquement, se présenter à Dieu sans le grand prêtre, sans le médiateur, sans l'intercesseur, c'est une offense à Dieu. C'est une offense à Dieu. C'est de l'impertinence. C'est de l'arrogance humaine. C'est avec Christ qu'on se présente devant Dieu. Et Jean, dans son épître, dit que nous avons un avocat, que nous pouvons nous présenter devant Dieu, parce que nous avons des péchés, évidemment, avec un avocat. Donc, notre avocat est celui qui va prendre notre défense pour nos faiblesses, etc., nos manquements, volontaires ou involontaires. Donc, la prière se fait toujours avec le Seigneur Jésus. Il faut commencer, quand on se met seul dans un endroit, il faut commencer à prier Dieu le Père et dire « Je suis venu te parler, Seigneur Père, avec Jésus, ton Fils, qui est là, et ce qui est bon et qui t'est agréable, ton Fils Jésus va l'approuver. Ce qui n'est pas bon dans ce que je vais dire, il n'approuvera pas et le Seigneur ne l'écoute pas. » C'est le minimum de respect qu'on peut avoir avec Dieu, le minimum d'honnêteté. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prie n'est pas forcément acceptable par Dieu. Mais il y a aussi des choses très importantes que Dieu accepte. Voilà. Donc la prière est centrée sur Jésus-Christ. Il faut faire très attention. Et dans Jean chapitre 17, si vous voulez bien prendre la Bible, vous allez voir. Nous aurons peut-être besoin même de prier pour d'autres églises, pour d'autres assemblées, pour l'évangélisation. Et nous aurons peut-être même besoin dans le futur, si on se forme convenablement, même d'aller aider parfois d'autres églises. Il faut voir qu'on a des responsabilités. On ne fonctionne pas rien que sur soi-même, pour nos propres besoins. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Donc c'est Jésus qui s'adresse à notre Père des cieux et il définit sa responsabilité. Il définit son mandat. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc si j'ai été donné par le Père des cieux à Jésus, j'appartiens à Jésus. Donc je ne peux pas me présenter sans Jésus auprès du Père. J'appartiens à Jésus. C'est clairement, je suis dans le mandat, je suis sous procuration. Jésus a un mandat me concernant. Et ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc nous sommes devenus la propriété du Seigneur Jésus. Cette idée extrêmement nouvelle depuis longtemps, depuis presque un siècle qu'il s'est installé en Occident, c'est la totale liberté du chrétien, la totale indépendance du chrétien et son libre vouloir qui peut le mener à Dieu. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça du tout. Tu me les as donnés. Le chrétien doit consentir à dire à Jésus régulièrement « Je t'appartiens ». Je t'appartiens, je suis à toi. Je me suis donné à toi, mais en plus, Dieu m'a donné à toi. Dieu le Père m'a donné à toi. Ça, c'est la reconnaissance, c'est la soumission. C'est le principe de l'obéissance. Et ils ont gardé ta parole. Le principe de la vraie obéissance, c'est que la parole que Jésus a, et que le Père lui avait dit de nous dire, elle est ici dans la Bible, eh bien, cette parole, elle est gardée. Donc, j'ai de l'affection, j'ai une attache profonde pour la parole que Jésus a enseignée. Ce qui veut dire que dans une église digne de Jésus, digne du Père des cieux, ça c'est la définition de notre situation. C'est la définition de notre situation. Je vous invite à méditer ce verset, il est extrêmement important, important. Alors, regardons le verset 26, dans le même chapitre. « Je leur ai fait connaître ton nom. » C'est la même chose que l'autre verset. Hein? « Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître. » Donc, non seulement c'est dans le passé, du temps de Nazareth, de Jérusalem, de la croix, de la résurrection, mais c'est encore aujourd'hui. Je leur ferai connaître. C'est une volonté déterminée de Jésus de nous faire connaître le nom du Père, la personne du Père. Ça, nous trouvons bien sûr ce principe, il est expliqué dans l'Épître aux Hébreux, où nous sommes sanctifiés par la volonté du Christ. C'est le langage de la Bible n'est pas le langage démocratique et pseudo-libertaire qui a été prêché dans les églises, qui a été enseigné même sur Internet. On a confié notre liberté à Dieu, on a abandonné notre liberté, nous lui sommes soumis à Dieu. Nous lui sommes soumis. Ça, c'est un langage parfois qui est difficile à admettre. Alors, je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître. Jésus a ce mandat encore aujourd'hui de me faire connaître le Père des cieux. C'est lui l'intermédiaire, c'est lui le mandataire, c'est lui le révélateur. Alors, vous vous rappelez bien que dans Matthieu, Jésus a dit, « Père, je te loue parce que tu as révélé ça aux enfants. » Vous vous rappelez de ce texte? Et qui, le Fils connaît le Père connaît le Fils, et qui connaît encore le Père? Ceux à qui le Fils veut bien le révéler. C'est dans Matthieu, ça. Ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Le mandat de Jésus, c'est sa totale souveraineté pour me parler, pour me faire connaître le Père. Donc, une relation vraiment de consécration à Jésus plaît à Jésus et Jésus me fait connaître le Père. Ok ? C'est des principes, c'est du dogme ce que je vous dis là, c'est des principes de doctrine de base de laquelle une église on ne doit pas sortir parce que c'est pas la farfouille. L'Église de Christ. Je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Vous vous rappelez le baptême de Jésus dans le Jourdain? Quand la colombe vient sur Jésus et que l'Esprit Saint parle, voici mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est un texte, c'est une parole qui a été dite par Isaïe 8 siècles avant. Au chapitre 42, verset 1. « Et toute l'affection que Dieu a pour Jésus, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, voilà-t-il bien que ici, Jésus dit que toute l'affection que Dieu le Père a pour Jésus, Jésus est en train de demander que la même affection soit sur nous. S'il n'y a pas un plus grand amour que ça, Jésus sur la croix, d'accord, mais Jésus aujourd'hui veut que l'amour du Père qui est en lui qui lui est donné soit aussi en moi, en nous. Donc, Jésus n'a pas fini sa tâche. Jésus est toujours à l'œuvre. Et il a ce dessein, ce désir et cette puissance de me transmettre, me révéler l'amour du Père et de l'installer en moi. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc Jésus veut être en nous, dans nos vies. Ça, c'est le cœur même de la prière, ça. C'est, tout ça, il faut le savoir. Ça doit être une évidence. Autrement, on improvise n'importe quoi comme prière. On peut passer toute sa vie à mettre les pieds à côté des souliers, à côté des vérités bibliques. Vous vous rappelez maintenant qu'il y a eu la transfiguration de Jésus sur le mont Hermon, lors de sa deuxième année de service de ministère en Galilée et en Judée. Jésus est apparu en gloire sur le mont Hermon, à côté d'Élie et de Moïse. Et si vous vous rappelez bien, la voix qui se fit entendre a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le !» Ça veut dire quoi? Que le mandat de Jésus est défini et est reconnu et approuvé par le Père. Il est révélé à Pierre, Jacques et Jean, et il est révélé aux apôtres qui sont le fondement de l'Église. Il est révélé à nous. Nous sommes amenés à écouter Jésus. Et tout cet amour qui est sur du Père pour Jésus est aussi notre héritage. Parce que Jésus a ce cœur si grand pour nous, cette volonté sainte et si généreuse pour nous, que nous soyons autant aimés que lui par le Père. Alors, à nous de ne pas bricoler dans la prière, à nous de ne pas négliger les vérités bibliques, à nous de ne pas improviser sentimentalement. Regardons ce que la Bible dit et on s'enrichira bien plus vite et plus profondément. C'est extrêmement important. Rien ne peut supplanter la voix de Jésus dans ma vie, puisque Dieu le Père a dit, écoutez-le. Alors, regardons dans Jean, évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. C'est pas facile, hein, les petits-enfants, vous avez entendu comment il fait le bazar, hein, nous on en a eu 6. Combien de fois, quand on était dans une église ou l'autre, je sortais, je rentrais même à la maison avec l'un ou l'autre, juste cru, de notre vente. Quand c'était pas fini avec un, c'était avec l'autre. C'est parfois dur pour les parents. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, en archéo, donc au commencement, c'est avant l'histoire humaine, avant la création, était la parole, donc logos, c'est le Christ, était, c'est un verbe en grec qui est a été, est et sera. C'est une permanence éternelle. Le Christ est éternel. Et il est la parole, la révélation, le révélateur du Père. La parole était avec Dieu, donc il est en proximité, en relation étroite avec le Père. C'est aussi un verbe grec, aoriste, a été, est et sera. Et la parole était Dieu, a été, est et sera Dieu. Donc on a tout. Si vous comprenez bien, quand Jésus prie pour nous et nous demande que l'amour du Père soit en nous, c'est tellement il est proche du Père, tellement éternellement il partage les richesses divine. Et ce Christ Jésus a été pour nous quelque chose de phénoménal. Au verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole divine, le Christ, est la lumière des hommes. C'est lui qui nous donne le bon chemin, qui nous donne la bonne intelligence. C'est lui qui nous donne un cœur pur et vrai pour comprendre les choses. J'ai été opéré, j'avais des hernies, j'en souffrais déjà depuis des mois, mais depuis plus d'un an, mais il fallait travailler et tout, etc. Il fallait acheter les choses avant d'être opéré. Et puis il fallait calculer que ce soit au début d'hiver, que le bois soit rentré, qu'il y ait du bois pour l'école, enfin, les récoltes sont faites, etc. Bon, on était opéré, ça a duré bien sûr 3 heures au lieu d'une heure, mais ce qui s'est passé, c'est que déjà avant et après l'opération, il y a un bon mois maintenant, pas moyen de se mettre couché à terre pour prier. Que je sois assis ou à genoux pour prier, oui, mais pour moi, l'essentiel, c'est prosterné, lorsque je ne suis rien et que Dieu est tout. Prosterné. Je ne pouvais plus le faire. J'étais franchement extrêmement privé, et j'ai pu le refaire ce matin, et quelle joie de laisser tout à Dieu, de ne rien, rien être sans lui, et de se prosterner devant lui. Quelle joie profonde, profonde, quelle source de vie, quelle source de paix, quelle source de lumière en soi. Où qu'on soit, j'ai déjà vu ça dans le champ quand je travaillais au champ, ou que j'allais au bois. À un moment donné, Seigneur, je ne peux plus, je ne peux plus, je sais que tu es là. Je me couchais à terre, et je me tourne vers Jérusalem. Je dis, Seigneur, maintenant, je suis à tes pieds. Qu'il y ait des fourmis qui montent sur moi, ou qu'il y ait un chat qui me monte sur le dos, c'est déjà arrivé chez nous, ou que quelqu'un, un autre bonhomme passe dans le bois, passe à côté de moi, ben qu'il passe, ça ne me gêne plus. Ça ne me gêne pas, parce que le Seigneur, mon Dieu, est là. C'est bien plus important que quelqu'un qui va faire l'étonner ou je ne sais pas quoi. La vie était la lumière des hommes. La lumière de la vie, c'est le Christ. La lumière vit dans les ténèbres. Moi, souvent, ce que j'ai comme expérience, je dis, au secours, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de m'y retrouver. J'ai besoin d'être avec toi et que tout, il faut que tout soit rangé, tout mis en ordre dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées. Et ça se fait parfois sur 2 heures, parfois ça se fait sur 5 minutes. Dieu a le pouvoir de le faire vite ou lentement. Il est la lumière, il est la paix, il luit dans les ténèbres. Et je vous en supplie, laissez à Dieu le pouvoir qu'il a de vous mettre en ordre et en paix. Vous ne créerez jamais la paix alors qu'en vous par vous-même. C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes trop pauvres et nous sommes trop entachés par le péché et par la vanité. Verset 5, la lumière vit dans les ténèbres. C'est nous qui sommes les ténèbres. Quand vous regardez la deuxième épître de Pierre, quand Pierre dit dans le chapitre 1 que la parole de Dieu n'est pas une fable, qu'elle a été dite et écrite par des hommes poussés par le Saint-Esprit, elle n'est pas l'objet d'une interprétation particulière, donc une fantaisie de l'un et de l'autre. Mais, et puis il dit que le soleil se lève, le soleil, la lumière du soleil levant se lève dans vos ténèbres. Les ténèbres de mon cœur, de mon âme, ils reviennent tout le temps. Dans la prière, on fait l'expérience de notre absolue limite, de notre néant. Et on fait l'expérience que Christ est lumière, paix. Paix ! Vous pouvez avoir des tuiles avec des factures ou des oppositions dans le boulot, des oppositions dans la famille, des angoisses. Vous avez fait des bêtises et vous en subissez les mauvaises conséquences. Mais vous pouvez vous mettre à genoux et vous présenter devant le Seigneur. Et sur 5 minutes, il vous met la paix. Une paix que vous ne savez pas fabriquer. Même pas un psychologue, même pas un médicament, même pas une bonne chope ou une cigarette. Ou un pastis. C'est la paix du Saint-Esprit. La paix, la lumière de Christ. Alors, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. C'est destiné qui, à des exceptions, oh il a de la chance de pouvoir prier comme ça, moi ça ne m'arrivera jamais. C'est faux. Dieu est juste, il est équitable avec tout le monde, mais quelle est mon attitude pour que le Seigneur puisse me donner sa paix et sa lumière? Quelle est mon attitude? Comment je fais? Quel est l'état de mon cœur? Il faut abdiquer toute revendication, toute manie. Il faut avoir envie de lui appartenir totalement. et de laisser tout. C'est ça que Paul dit quand vous êtes dépouillé et revêtu en Christ. Dépouillé, c'est de tirer les vieux vêtements, les pouilles, c'était les vêtements sales, les vêtements usés, c'est tirer toutes les pouilles. Dépouillé, c'est mis à nu et revêtu de Christ, rhabillé, remis à neuf, pour être présentable devant Dieu, pour être habillé de Christ. Eh bien, c'est ça. Alors, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans tout homme, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été vu par elle, et le monde n'a point connu. Elle l'était, c'est un aoriste, a été et sera. Elle était, elle n'est pas partie, la lumière de Christ est là. Alors, on peut dire, mais il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ne seront pas sauvés. Mais écoutez, moi, je connais plusieurs cas de personnes qui ont eu des signes puissants de la présence de Christ, et qui simplement après, on cherche après un chrétien. Moi, ça m'est arrivé. Il y a un monsieur qui va venir, qui habite assez loin, il va venir mardi, pas ce mardi-ci, mardi de la semaine prochaine, il m'a demandé d'être seul avec moi, parce qu'il a eu des signes, il veut me parler. Et alors, j'ai eu le cas avec plusieurs amis musulmans. Dieu est vivant, le Christ est vivant. Dans Ésaïe 65, verset 1, Dieu dit, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je leur ai dit, me voici, me voici. Me voici. Mais si moi, je m'arrange dans mon cœur, par rébellion, par orgueil ou règlement de compte contre quelqu'un, à ne pas accepter la visite de Jésus dans ma vie, de Christ, à ne pas entendre qu'il toque derrière la porte. Il vient un jour un délégué de la poste de Metz-Nancy à la maison pour des mandats, c'était pour distribuer des évangiles, des traités dans beaucoup d'agglomérations françaises. Et je voulais signer un contrat et voir discuter les prix. Donc il vient au moment du repas, il s'assied, il avait son casse-croûte, mais voilà, on prie. Oui, bon. Alors il écoute et puis c'est tout. Oh, mais moi je ne crois pas, hein. Oh, vous savez, moi j'ai fait les études de médecine, et puis à un moment donné, un de mes copains conduisait, on allait à Paris, et puis il y a eu un accident, moi j'ai été 2-3 ans à l'hôpital, je suis fini les études, hein, fini tout ce que j'avais prévu. Alors me voilà employé de poste, et je cours pour des petits contrats, quoi. Frustré, hein, frustré, un agressif, frustré, comme il y en a beaucoup, parce qu'il s'écoute de trop. Et pratiquement... il dit, moi je ne peux pas croire en Dieu. Si Dieu existait, ça n'aurait pas dû m'arriver. Bon. Et puis, tout d'un coup, dans la conversation, je laissais cracher son jus, hein, je laissais sortir tout son venin. À un moment donné, il faut, hein, l'abcès, il faut que ça sorte. Hein. Et puis à un moment donné, il dit, ah, mon père est mort, je ne m'entendais pas avec, je ne l'aimais pas, mais je regrette bien de ne pas avoir pu parler avec lui. Tiens, tiens, c'est la bourrique qui regrette d'avoir été bourrique, quoi. Hein. Le têtu qui regrette, il a fait la gaffe d'être têtu jusqu'au bout, contre son père, quoi. Alors, et puis, bon, on l'a enterré, et puis on a fait un beau monument. Je suis allé avec ma mère, on a été dans le cimetière, on est voir si le monument était bien fait. Quand on est arrivé, il y avait une belle colombe sur le monument, une colombe, mais d'un éclat. Un éclat, elle était super blanche. J'ai jamais vu ça venir. Je suis entré en colère, en rage. Alors, on voyait qu'il s'animait. J'ai dit, et moi je le taquine, mais c'est une simple colombe. C'est une simple colombe. Il voyait bien que je le coinçais. Hein. J'ai dit, et qu'est-ce que vous aviez contre la colombe? Dieu vous a fait un signe ce jour-là? Et vous avez été enragé contre Dieu? Alors je dis, vous vivez dans un appartement en ville. Il y a un mur. Vous avez une entrée sur une rue. Votre colocataire ou locataire à côté a une entrée sur l'autre rue. Et vous entendez qu'il fort, vous entendez qu'il chante. Vous dites, il n'existe pas? Parce que vous ne le voyez pas, il n'existe pas? Vous avez un signe, vous l'entendez chanter. Vous l'entendez forer dans le mur. C'est un signe. Maintenant, vous n'aimez pas votre voisin. Vous ne voulez pas qu'il existe dans votre tête. Alors vous mettez la radio plus fort. Ou alors vous achetez des plaques isolantes pour qu'on n'entende plus. Et vous l'ignorez totalement, vous n'avez pas envie de le connaître. Ben, c'est ce que vous avez fait dans le cimetière. Quand la colombe était là, et qu'elle était d'un éclat formidable, Dieu vous a fait un signe qu'il vous aimait. Et vous le refusez. Vous ne voulez pas que Dieu existe. Et pourtant, il existe. Il vous adresse des signes. C'est votre problème. Ce n'est pas Dieu qui a des problèmes, c'est vous. Ah ben ça alors. Il a fallu que je fasse tous ces kilomètres-là pour me faire dire ça. Il faut dénoncer le péché d'orgueil, de vanité. L'obstruction faite à Dieu par nos cœurs humains pourris. Un de mes amis pasteurs à Argenteuil qui est décédé, il disait toujours, lui, à un moment donné, « Mon âme, c'est ma fosse septique. » Vous savez ce que c'est qu'une fosse septique, hein? C'est tout ce qui sort du cabinet, hein, et qui va pourrir là-dedans, et puis après, on fait venir le camion, on vidange, hein. Bon, le liquide, il s'en va à la rivière. Mais en attendant, cet homme-là, c'est vraiment un brave type, hein. Bon, Robert, il a toujours dit ça, mon âme, c'est une fosse septique. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui fait l'assainissement. Quand vous voyez les camions là, qui passent, ils vont assainir les fosses septiques, ils vont déboucher les égouts. Et vas-y, je te mets la pression, ou j'aspire, et je pousse. Et parfois, j'ai déjà vu un gars qui travaillait à ça, il en avait plein la figure, le pauvre gars. Mais le Seigneur n'en a pas à la plein figure de nos péchés. Le Seigneur peut assainir mon âme, mon cœur. Il peut tout éclairer. Et c'est ça que je trouve passionnant de se mettre à plat ventre ou à genoux devant le Seigneur et de baisser les armes et de lui laisser faire ce qu'il doit faire. Il est ma lumière. Il éclaire tout homme. Alors, regardez au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Quand on reçoit la présence de Dieu, pour cet homme-là, c'était simplement recevoir en paix cette colombe-là qui était sur le monument. Demain, c'était de recevoir le soleil couchant, en se disant, Seigneur, tu m'as fait un beau cadeau avec ce soleil couchant. Ou demain, oh, je vois un petit chat, il est dans les bras d'un enfant, Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait un beau cadeau. Je trouve que c'est formidable, ce petit enfant avec son petit chat dans les mains. J'accepte les signes, et pourtant je ne vois pas Dieu. Mais j'accepte les signes, et je dis à Dieu que j'accepte ces signes. Si j'accepte le signe de Dieu, Dieu a entendu que mon cœur est bien disposé à le connaître. Alors, regardez bien au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est du pouvoir de Dieu seul de faire de moi un enfant. Moi, un pécheur égaré, perdu, qui a l'incapacité de connaître Dieu et qui ne le connaît pas. Quand vous regardez juste à côté du but de l'évangile de Jean, c'est un grand avantage, le dernier chapitre de Luc, il est juste à côté, au chapitre 24. Au chapitre 24, c'est incroyable. Le phénomène de la révélation personnelle de la vie de Christ, de la personne de Christ, à un incroyant qui va devenir croyant. Hein? Luc, chapitre 24, c'est juste à côté, puisque j'en étais à la première page de Jean, verset 16. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste, si triste? Ça, c'est vraiment typique. Vous allez partout. Vous voyez la tronche que les gens tirent maintenant? Ils sont empêchés de reconnaître Dieu et ils sont tout tristes. Mais pourtant, Jésus ne veut pas qu'ils restent tristes. Jésus ne veut pas qu'ils restent seuls. Jésus veut se révéler. Il veut révéler le Père. Et Jésus est patient. Il va prendre la parole de Dieu et plus loin. Quand ils écoutent, hein, verset 25, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, il faut admettre que nous ne sommes pas intelligents, il faut admettre que nous avons tout à apprendre du Seigneur. Et le siège même de la prière, Seigneur, apprends-moi, révèle-toi, apprends-moi à te connaître, à t'aimer, apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à aimer celui-là que je ne supporte pas. Apprends-moi à ne plus être agressif. Apprends-moi à ne plus être frustré. Seigneur, chasse loin de moi les pensées impures qui occupent pendant des heures mon esprit. Chasse loin de moi, de mon âme, toutes les pensées à propos de l'argent, des problèmes de famille, etc. Balaye tout ça, Seigneur. Mets ta paix pour que je puisse être avec toi, Seigneur. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et puis, commençant par Moïse et tous les prophètes, hein, verset 27, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Les amis, quand quelqu'un est dans un état où, tout doucement, il se rend compte qu'il a besoin d'intelligence, vous lui donnez un évangile, vous lui donnez un verset, vous essayez de lui expliquer un petit peu. Puis vous verrez s'il est ouvert, vous verrez s'il accepte humblement d'être renouvelé dans son intelligence. S'il accepte que son cœur est lent à croire et qu'il a, vous voyez bien au verset 25, homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire, c'est un cœur qui fait obstruction, qui freine des quatre pattes comme une bourrique. Eh bien, il faut être patient, patient. Et puis, au verset 31, bien sûr, Jésus est à table avec eux, il mange avec eux, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est quels yeux? Ceux-là? Non, c'est les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ça veut dire, est-ce qu'ils n'étaient pas en train de se mettre à vivre profondément, intensément? Lorsqu'ils nous parlaient en chemin, ils nous expliquaient les Écritures. Vous voyez l'action de Dieu? L'action du Christ. Et au verset 45, après avoir lu tout ce qui était dans Moïse et les prophètes et les psaumes concernant Jésus, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est dans la prière, la soumission, dans le dépouillement, que Dieu ouvre notre esprit. Il ouvre des fenêtres et des portes à notre âme. Il se révèle à nous. Homme perdu, sans vision, sans audition. Prenons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Vous comprendrez pourquoi, toujours dans l'évangile de Jean, il y a cette parole qui revient. Viens et vois. Viens et vois. Ben oui, mais ça c'était pour l'époque de Jésus, on va dire, quand Jésus était vivant. Mais non, c'est encore maintenant, l'évangile de Jean dit, viens et vois. Donc, je peux venir à Christ, à Jésus, et voir, voir la présence de Jésus. Alors, Éphésiens chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Vous voyez que Pierre... Prie. Paul, oui. Quand vous avez du temps, vous ne priez pas seulement pour vous. Vous pouvez vous mettre à prier et à louer le Seigneur pour que Dieu ouvre les fenêtres du cœur de quelqu'un d'autre. Même d'un ennemi. Même d'un voisin. Même de quelqu'un que vous ne supportez pas au travail. Même d'un conjoint. Ma parole, d'un enfant. Et c'est une prière qui est entendue. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Donc, Paul rend grâce. Comme Jésus rendait grâce, et puis Lazare sort vivant du tombeau. Il rend grâce avant. Donc, quand nous rendons grâce, c'est que nous faisons confiance à Dieu. Je rends grâce pour mon voisin, Seigneur. Je sais que tu t'occupes de lui. Je te le remets tous les jours. Quand je vous dis ça, je vais me donner des vagues dans 3 minutes. Tac, tac, tac. Ah oui, parce que j'ai parlé plus vite et je viens de recevoir une leçon moi-même. Alors, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Jésus a une efficacité qui dépasse notre entendement pour se faire connaître à nous et pour se faire connaître à d'autres. Ne sous-estimez pas la puissance de Jésus. Il faut prier pour que l'œuvre de Christ se fasse sur la terre. Si Jésus, dans Jean 17, prie pour nous et pour ceux qui croiront dans notre parole, c'est parce qu'il est certain de l'efficacité de son action, de sa présence, de sa personne. Voilà en qui nous devons faire confiance. En qui nous faisons confiance? En le Dieu vivant, Jésus de Nazareth ressuscité. Alors la prière, dans Matthieu 28, 18 à 20, c'est mis ceci: faites des disciples, donc des enseignés, apprenez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit, donc les commandements, il y a des principes, il y a des règles pour vivre fidèlement à Dieu. Et puis quoi? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu de la Trinité. Ensuite, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si Jésus n'a pas menti, il a tous les pouvoirs de répondre à notre prière. Non pas parce que c'est pour nous faire plaisir et faire plus malin que les autres, mais parce que lui, il est tout puissant et qu'il veut qu'il soit connu. Nous sommes au service, nous amenons les autres à être des disciples. Nous sommes au service, nous amenons des autres à obéir à Dieu. Donc notre prière s'engage dans la mission. Notre prière n'est pas égocentrique. C'est fort important, les amis. Fort important. La prière n'est jamais un truc égocentrique qui tourne alentour de notre nombril. Prenons Romains chapitre 10. Verset 8. Cependant, naturellement, je fais que survoler, moi, quelques versets dans le prologue de Jean. Hein. Le prologue de Jean, c'est 18 versets. Je me rappelle à Orval, 3 jours. 3-4 réunions par jour, 3 jours. Sur ces versets-là. Bon, ici, on va vite, oui. Il faut bien. Il faut aller les relire, les méditer. Romains, chapitre 10, verset 18. Que dit-elle donc? C'est la parole. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Imaginez ce que ça veut dire, c'est le Christ. Il est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans la prière, quand je suis vraiment dans l'abaissement, je me mets dans la docilité, je me mets dans ce que j'appellerais la kénos, l'abaissement. Hein? Eh bien, la parole est tout près de ma bouche et de mon cœur. Elle va jaillir. Elle va jaillir. Parce que Dieu peut faire jaillir la vie en moi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que c'est pas ça que Philippe a dit à l'eunuque d'Éthiopie? Alors l'eunuque d'Éthiopie a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ben si, ben on va descendre dans le ruisseau, puisque c'était ça qu'il le confessait. C'est en croyant du cœur, verset 10, qu'on parvient à la justice, donc au pardon des péchés, à la sainteté et à l'obéissance, ça a trois sens. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Où est-ce qu'on confesse de sa bouche, d'abord? Eh bien, on confesse de sa bouche l'amour que Jésus a pour moi, ce qu'il me dit, ce qu'il me fait comprendre, dans le secret de la prière. C'est dans le secret de la prière qu'on dit à Dieu ce qu'on a compris. C'est dans le secret de la prière qu'on apprend à dire, Seigneur, tu m'as éclairé sur ça, ça, ça. Est-ce que je me trompe, Seigneur? Est-ce que c'est bien toi qui me l'as dit, ou c'est l'ennemi qui est venu me refiler cette pensée? On cherche tout près du Seigneur, ce qui vient du Seigneur, qui sort de sa bouche, pas de la bouche de l'ennemi. C'est dans la prière qu'on vérifie si ça sort de la bouche de Christ. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. La vie chrétienne s'épargne bien des misères et des confusions si elle accorde un grand temps à l'adoration, à la prière. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. donc entre toutes les races, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, riche pour tous ceux qui s'adressent à lui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. C'est extrêmement important, tout ce qui se passe entre mon Seigneur et moi. C'est extrêmement important. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 35. Vous savez, sur les milliers de fois où j'ai été tout seul avec le Seigneur, il y en a certainement bien les trois quarts où j'ai avoué ma bêtise, mes erreurs, ma stupidité, qui revient toujours. Mais chaque fois, ça se terminait par le Seigneur disait « Je t'aime, je t'aime ». Donc il m'encourage, il me prend dans les bras et il me fait repartir. Pensez à Élie. À Élie, il est dégonflé, il est dans le désert, il va vers Sinaï. Il est là, il veut mourir. Et puis tout d'un coup, l'ange de l'Éternel lui apporte à manger. Il fait pousser un petit arbre pour avoir de l'ombre. Puis il dit, le lendemain matin, il lui redonne à manger. Maintenant, avec ce que tu as, tu vas au Sinaï. Et puis quand il est au Sinaï, je suis tout seul, ils m'ont tous abandonné. Ah oui, ça, c'est souvent des coups pareils, quand on va dire des choses pareilles à Dieu. Alors Dieu lui dit, non, non, il y en a encore 7000 en Israël qui n'ont pas plié le genou devant Astarté, devant Baal. Non, non, t'es pas tout seul. Il nous ouvre les yeux. Eh bien, le chrétien, il a des frères et des sœurs qui les voient, qui les rencontrent, qui les cherchent, qui vivent avec eux. C'est ça le sens d'une église. Pas chacun tout seul dans son coin. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Après, il lui donne un boulot. Ben, ce n'est pas un boulot marrant. Il va partir de Sinaï, il va traverser le désert, et puis il va partir vers la Jordanie, et il va croiser tout près du Jourdain Élisée, un paysan, avec sa charrue, ses bœufs et tout ça. Et paf, il va choisir Élisée, il jette son manteau sur lui, et puis sale boulot. Mais parmi les sales boulots, il doit aller en Syrie, voir le roi de Syrie, pour lui dire quelque chose. J'ai un ennemi. Et c'est seulement après que Dieu le prend dans un char et l'enlève au ciel. Même si Dieu nous donne un sale boulot, c'est qu'il sait qu'il va être avec nous pour le faire, et c'est vers la gloire que nous allons. Vers la gloire. Dieu garde ses enfants. Dieu garde ses enfants. Même si nous, des fois, on se croit tout seul, c'est pas vrai. Luc 9, 35, chapitre 9, verset 35. La nuit de la nuit sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Quand vous entendez le Seigneur vous parler dans votre cœur, quand vous le voyez faire quelque chose dans votre vie, il est bon de garder le silence tout un temps. Il est bon de laisser à Dieu le temps de me transformer, plus encore, de m'amener plus loin dans l'obéissance, de m'amener plus loin dans l'écoute de lui. Si on dit tout de suite ce que le Seigneur nous fait connaître, nous expérimente, on devient une machine à déballer ce que Dieu fait. Pourquoi faire ? Se mettre en valeur ? Et puis après, on a oublié. On a eu des... Oh oui, oh, t'as une belle vie spirituelle, t'es bien, toi, t'as de la chance, je voudrais bien être comme toi. Tout ça, ça peut décourager les autres déjà. En plus, c'est pas ça. Des fois, il faut laisser faire le Seigneur. Il faut laisser résonner la parole de Dieu dans notre cœur pendant des semaines ou des heures, pour que le Seigneur l'établisse pour toujours, pas superficiellement. Il y a une espèce d'emballement dans la prière, quand on est bien, d'espèce d'exubérance, d'émotionnel, qui peut être dangereux. La vraie satisfaction, c'est le contentement et la piété. Quand le Seigneur nous a fait comprendre quelque chose, ça travaille notre cœur, il faut être content de ce que Dieu m'a fait connaître et de ce qu'il me dit. Et j'aime être avec lui tout seul, j'aime entendre, me rappeler ce qu'il a dit. Et le contentement et la piété sont source d'un grand gain. Il y a tout un temps pour que la parole de Dieu s'installe comme il faut dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, sans que je fasse de l'exhibition spirituelle, sans que je me mette en valeur par toutes sortes de révélations que j'ai eues de part de Dieu, etc. Où je peux me mordre parfois les doigts après si ça ne se réalise pas. J'ai vu ça, un enterrement, il y a que plusieurs mois. Ce monsieur est venu ici à l'église longtemps, puis il est décédé. Et c'est un frère, vraiment. Il était pentecôtiste, mais c'était vraiment un frère dans la foi. C'est vraiment le même Seigneur, le même Sauveur. Et ce qu'il y a, le Seigneur m'a dit qu'il me guérirait. Oui. Sauf qu'il est mort du cancer, il n'a pas été guéri. Comme il avait redit ça à ses enfants, bien, le jour de l'enterrement, ils étaient tous dégonflés, et puis ils ne croient plus en Dieu. Il faut pouvoir garder le silence. Il dit, Seigneur, est-ce que tu me l'as vraiment dit ça? C'est moi qui ai transposé, qui ai rallongé la sauce, qui te fait dire quelque chose. Attention aux auto-révélations et aux visions. Il faut être certain que ça vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut du temps. Il faut du temps. Ce n'est pas de la lâcheté que de se taire et de laisser faire le temps pour voir si réellement j'ai bien compris ce que Dieu m'a dit. Si ce n'est pas moi qui ai tout mélangé. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Et oui, ben, il a fallu attendre la passion, la mort, la résurrection, la Pentecôte, et puis après ils ont pu parler. Donc il y a un temps pour parler. Comme dit le livre des Proverbes de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour parler, un temps pour prier, il y a un temps pour se taire. Il faut être prudent, il y a une grande sagesse dans la vie spirituelle, c'est très important. Donc, Jésus a une méthode. Par la prière et la relation personnelle avec lui, il veut purifier notre partie affective. La partie affective qui est en nous. La partie affective est nécessaire en nous. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Hein? Et puis c'est mis aussi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Bon, ça veut dire que les sentiments ne sont pas forcément mauvais, ils sont peut-être très beaux. Mais les sentiments qui étaient en Christ, pas les autres. Et comment les discerner? Donc Jésus a une méthode, c'est que dans la relation personnelle avec lui, il faut beaucoup d'humilité pour qu'il purifie la partie affective de notre vie. Dieu adopte une méthode prudente avec nous. Elle est nécessaire. Si nous avons accepté Jésus, il veut une vraie régénération, une vraie nouvelle naissance, pas une fausse. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Verset 17. Je commence au 13, hein. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Vous imaginez, hein, c'est comme l'image, hein, je suis habillé, je mets une ceinture, hein, pour que le pantalon, le falzard ne tombe pas à terre. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois, je n'avais pas mis de ceinture. Je vais dans le magasin, je soulève les choses lourdes. J'arrive, je sors, je vais à l'auto. Mais comme on contracte les muscles, pan le pantalon en terre. J'étais en caleçon au milieu de la rue, et j'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce que je lâche le bazar ou je remonte le pantalon? J'ai dû avancer comme ça, et il était dans mes pieds, hein, jusqu'à l'auto. Et puis, c'est quoi? Que la ceinture est utile. J'aurais mieux fait de prendre 2 secondes pour me mettre une ceinture. J'avais l'air fin, là. Hein? Alors, c'est la même chose pour l'entendement, pour les raisonnements, pour la vie de l'intelligence. Il faut mettre une ceinture. Soyez sobre, c'est ça que je veux dire. Soyez sobre. La sobriété, c'est pas parce qu'on est sobre qu'on a une vie spirituelle médiocre. C'est pas parce qu'on garde une certaine prudence, une certaine pudeur sur notre vie intérieure avec le Christ, avec Jésus, qu'on manque de vie spirituelle. Ça viendra en son temps. Mais Jésus a dit, ne donnez pas épingle au pourceau. Il y a une certaine prudence, sagesse. Soyez sobre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc nous sommes en chemin, notre intelligence a besoin d'une ceinture, il faut de sobriété, il faut vivre dans l'espérance. La finalité, c'est rencontrer Jésus dans sa gloire. La finalité, c'est pas que je mette en valeur ma prière tout le temps, à tout le bout de champ, et qu'est-ce qu'on prie bien dans l'église, qu'est-ce qu'on prie bien quand on est ensemble, on a tellement prié, et tout marche par la prière. Non, tout ce qui compte, c'est d'arriver tout près du Seigneur quand il apparaîtra. Et la prière, il faut une gestion de la prière pour qu'on n'exagère pas dans le déballage. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc on peut avoir tout d'un coup de belles expériences dans la prière, de bons contacts avec le Seigneur et des instructions du Seigneur dans notre cœur, mais il ne faut pas les mélanger avec nos convoitises, avec des mouvements de l'âme qui sont encore des reflets du péché, des fruits du péché. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Ça, évidemment, c'est un sacré programme. Selon qu'il est écrit, c'est dans Lévitique, vous serez saint car je suis saint. Le but ultime de tout ce que nous vivons avec le Seigneur, c'est la sainteté. Et regardez Jésus, il guérissait quelqu'un, il changeait de chemin. Que tout le monde ne vienne pas faire du barreau pour l'entour de lui. Il prêchait, paf, il repartait autre part. Et vous voyez, Isaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat. Donc, il ne faisait pas du show. La sainteté et le show, ça ne va pas ensemble. Verset 17. Si vous invoquez comme père celui qui juge, selon l'œuvre de chacun, sans exception à personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes des pèlerins, nous allons jusqu'au moment où nous rencontrons Jésus. Et ce temps de pèlerinage, de cheminement, il faut une certaine crainte. Il y a une certaine réserve, une certaine sobriété, un équilibre. Ok ? C'est extrêmement important, les amis, la prière dans l'équilibre, dans la profondeur, mais dans l'équilibre. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Ça s'apprend, il faut beaucoup, beaucoup, et c'est jamais fini d'apprendre. Qu'est-ce que le chrétien ? C'est quelqu'un à qui Jésus a tout donné. Le chrétien, c'est quelqu'un qui n'a rien. C'est quelqu'un à qui Jésus a donné sa vie et a donné sa sainteté. Sans que le chrétien puisse être saint par lui-même, sans que le chrétien puisse prier par lui-même, sans que le chrétien puisse être aimable et charitable par lui-même, c'est le Christ qui lui donne l'amour pour les autres. C'est le Christ qui lui donne la prudence pour les autres. Il m'en faudra encore beaucoup. C'est le Christ qui vous donne l'amour de la prière, l'amour de sa présence, parce que par moi-même, je suis toujours affairé, je vais toujours courir, je vais toujours être distrait par quelque chose. Je vais toujours me trouver des pots de banane, des savonnettes, pour me détourner de la rencontre, c'est-à-dire de la prière. C'est Jésus qui me donne la prière. C'est Jésus qui veut me donner tout. Tout vient par lui-même, par lui. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 17. Quelle heure est-il, s'il vous plaît ? C'est pas... Ah, oui, bon. On va arrêter. Donc, dans Éphésiens, chapitre 4...
Quel verset ?
Verset 17, mais regardez l'apôtre Paul, c'est formidable ce qu'il dit, hein. C'est parce qu'il l'a pris d'abord pour lui-même. Hein. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Imaginez ce que ça veut dire, dans le Seigneur, en sa présence, sous son regard, sous son jugement. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et vous savez à quel point parfois les pensées peuvent se mélanger avec la prière. Hein? Ouh, le méli-mélo. Et vous savez ce qu'il faut faire ? Seigneur Jésus, en ton nom, que Satan s'en aille. Et que je sois tout seul avec toi. Qu'il ne m'envoie pas des SMS l'autre. Qu'il ne m'envoie pas des messages sur mon portable, c'est-à-dire ma conscience. En ton nom, Seigneur Jésus, cherche-le loin de moi, que je puisse être vraiment seul avec toi. Et que je sois à toi. Et puis ça revient, ça revient. Seigneur, je t'en prie, je suis trop faible. Viens à mon secours par ton Saint-Esprit. Chasse l'ennemi. Qu'il s'en aille, qu'il me laisse seul avec toi. Que je puisse aller dormir en ayant l'esprit en paix, ne plus être attaqué par les saletés de Satan. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur mon Dieu, je ne suis rien sans toi. Tout est par toi en moi. La vanité des pensées, c'est ça. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Eh bien, à chaque instant, même un chrétien, même quelqu'un qui s'est consacré à Dieu depuis longtemps, il peut avoir l'intelligence obscurcie. Il peut être étranger à la vie de Dieu. Vous savez, c'est terrible de rencontrer un frère qui était pasteur pendant des années, qui est tombé dans l'adultère et qui n'est plus rien. Qui vit comme un clodo, un clochard, ou comme un... C'est terrible de voir un chrétien qui était bien parti pendant des années et puis qui après, il fait n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'il croyait être arrivé. Il faut être toujours au pied du Seigneur, à ses genoux, et toujours avouer son néant, sa vanité. Nous sommes étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il nous faut éviter l'endurcissement du cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc nous voyons que les ennemis de la prière, les ennemis de la prière sont déclarés là. Je vous déclare de ne plus marcher comme les païens. Il parle à des chrétiens. Donc ça veut dire que on retombe vite dans nos ornières, hein, dans nos vies, c'est tout. Méditez ces versets-là, c'est fort important. Et dites-vous bien, si Paul a vécu ça, c'est qu'on y passe aussi. C'est qu'on y passe aussi. Et lisez le reste du chapitre, vous allez voir. Ça vaut la peine. Hein. Et finalement, au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Eh oui, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en moi. Si je vis lamentablement, suivant des vanités, comme les païens, je l'attriste. Dieu peut-il pleurer encore aujourd'hui ? Mais oui, hein. Mais oui, hein. Ça ne vous est pas arrivé, après certaines choses, de pleurer devant le Seigneur, de dire « j'aurais pas dû le faire ». J'aurais jamais dû penser ça, j'aurais pas dû m'associer à cette personne, j'aurais pas dû. Vous pleurez, non pas par orgueil, par des bêtises, vous pleurez parce que vous avez offensé le Seigneur, vous ne l'avez pas aimé, vous ne l'avez pas suivi. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous force à l'honnêteté devant Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons une vocation, c'est d'être en paix. Donc que le Saint-Esprit soit heureux en nous, qu'il agisse, qu'il établisse sa paix. Ok ? La prière est un grand lieu de purification de notre vie affective et de nos pensées. Elle doit être un lieu de victoire du Saint-Esprit. Pour la gloire de Dieu. Amen.
Amen.
Si quelqu'un veut prier, chanter, proposer un chant.